France Musique. France Musique. Grand large. Go West. Laurent Vallière.
Aujourd'hui, sixième épisode, un amour de Boston. Notre voyage débute. Boston, ville côtière de Nouvelle-Angleterre, l'une des plus vieilles en Amérique, fondée par des puritains en 1630, le long de l'estuaire du Charles, la rivière, longtemps la plus prospère des colonies. On est à 5 heures de route de New York, il n'y a que 340 km de distance, mais sur l'autoroute, la vitesse est limitée à 100 km/h. Boston, c'est presque 700 000 habitants en centre-ville, 5 millions sur la métropole avec des universités prestigieuses, Harvard, le Massachusetts Institute of Technology et ses grandes écoles de musique comme la Berklee School. Une ville puritaine où se déroule la froide série La Servante écarlate avec un hôtel de ville en béton armé et une réplique du bateau où se déroula la fameuse Tea Party, la révolte contre le Parlement britannique qui précède la guerre d'indépendance. Boston, une ville très musicale. Au commencement, ce sont surtout la musique religieuse, des chants psalmodiques qu'apprécient les nouveaux colons. Fairest Lord Jesus, c'était Leontine Price, avec le chœur masculin de Saint Thomas de New York, dirigé par William Self. Un extrait des Schlesische Volkslieder du XVIIe siècle, parce que ce qu'emmènent les puritains aux États-Unis, ce sont d'abord des psaumes et des chansons populaires importées au XVIe et au XVIIe siècle. Les passagers du Mayflower chantaient des thèmes du psautier d'Ainsworth en 1620. En Nouvelle-Angleterre, l'usage des instruments est à l'époque interdit aux cours d'office. On interprète les psaumes sous forme de répons chantés et à l'unisson. L'activité musicale en Nouvelle-Angleterre a donné toute une vitalité au chant choral. Boston connaît en 1731 l'un des premiers concerts donnés dans le Nouveau Monde. À Boston, des sociétés locales poursuivent leurs efforts en faveur du chant. en révélant les grandes œuvres européennes. Avant la guerre civile, la musique classique, au départ, s'écoute à travers ces sociétés. Il n'existe pas d'orchestre à Boston et la principale institution, c'est un groupe choral spécialisé dans la musique sacrée, la Handel et Haydn Society, fondée en 1815. Alors ce ne sont pas des professionnels, c'est un groupe d'amateurs. Les membres sont tailleurs, caissiers de banque, marchands. Et les répétitions sont des moments de sociabilité durant lesquels on boit du vin et des alcools.
Oh!
Et Resurrexit, extrait de la messe en si bémol majeur de Joseph Haydn, par l'orchestre et le chœur de la société Handel et Haydn, dirigé par Harry Christophers. En 1822, la société Handel et Haydn, spécialisée donc dans la musique classique à Boston, publie toute une collection de musique liturgique à l'initiative d'un homme important dans cette nouvelle ville, Lowell Mason, un marchand devenu chef de chœur et organiste qui fondera par la suite la Boston Academy of Music. Il n'aimait pas la musique non religieuse, mais cette académie va former à Boston un premier orchestre dès 1833. Et puis il y a un autre homme important qui arrive, un industriel. Il s'appelle Henry Higginson, un ancien étudiant dans Harvard. Il avait étudié la musique dans sa jeunesse à Vienne et il rêvait de créer un orchestre symphonique à Boston. Il aboutit à ses fins en 1881 avec ce Boston Symphony Orchestra. Il l'annonce dans un texte où il prévoit 60 musiciens, 20 concerts par saison et des répétitions ouvertes au public. Cet orchestre sera le deuxième symphonique créé aux États-Unis. Il va donner à Boston une magnifique salle de concert. Higginson n'aimait pas la salle du Carnegie Hall à New York. Il n'aimait pas ses sièges alignés en fer à cheval. Il voulait quelque chose de plus simple, de plus petit. Sa salle, Boston Symphony Hall, va être calqué sur le Gewandhaus de Leipzig. Une salle relativement longue, étroite, haute, dans un rectangle. Un extérieur en briques rouges, avec à l'intérieur une large pièce rectangulaire et au sol du bois. On dirait presque un espace fonctionnel pour écouter de la musique, ou une église pour l'adorer. Ce lieu, Boston Symphony Hall, va gagner une réputation mondiale avec son plafond coffré. Les balcons latéraux sont très peu profonds pour éviter de piéger ou d'en mitoufler le son. Et le plafond à caisson aide à procurer une excellente acoustique à chaque siège. C'est le premier bâtiment construit en fait avec la science de l'acoustique. Tout va donner une chaleur, une clarté, une présence sonore remarquable. Mais bon, voilà, de l'extérieur, le Boston Symphony Hall a l'air vieux dès son ouverture, situé au 301 Massachusetts Avenue. Il y a une seule plaque qui est installée dans le bâtiment, une plaque avec le nom de Beethoven. Pour le concert inaugural de Boston Symphony Hall, le 15 octobre 1900, on donne la Missa Solemnis de Beethoven. Le Kyrie eleison de la Missa Solemnis en ré majeur de Ludwig van Beethoven, dirigé par Herbert von Karajan à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin avec le chœur de Vienne. Parce que la vie musicale est intense en Nouvelle-Angleterre et la région voit naître plusieurs compositeurs. Dès 1770, William Billings publie The New England Psalm Singer pour les écoles de chant et les chorales. Il fait partie de ce qu'on appelle la première école de Nouvelle-Angleterre. Et puis vient la seconde école, les compositeurs qui épousent cette fois les formes historiques développées par Bach, Handel, Mozart et Beethoven. Amy Beach était la plus jeune des Boston Boys. Cette femme naît un peu plus haut, dans le New Hampshire, en 1867. Enfant prodige, sa mère, calviniste, lui interdit de toucher le piano. Après un mariage avec un homme qui aurait pu être son père, elle fait ses débuts en jouant Chopin à l'âge de 17 ans avec le Boston Symphony Orchestra. À 27 ans, elle compose et elle devient une figure féminine dans un monde dominé par les hommes. À l'extérieur, elle se montre sérieuse, religieuse, polie, mais sa musique véhicule une charge libidinale à la Liszt, avec un romantisme passionnel. Voici son trio pour piano, violon et violoncelle en la majeure. Thank you. L'Allegro du trio en La mineur de Amy Beach, avec Paul Barrett au violon, James Lisney au piano et Charles Medlam au violoncelle.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
Autre élément de la seconde école de Nouvelle-Angleterre, George Chadwick, premier compositeur symphonique à créer un son américain. Parce que les compositeurs de cette école ne s'intéressent pas vraiment aux questions qu'est-ce que la musique américaine, est-ce que ma musique devrait sonner américaine. Mais Chadwick possède une voix ancrée dans la musique populaire, parfois humoristique, dans les tubes et dans les chansons de spectacles populaires à l'époque, les minstrel shows. Dans ses mémoires, lorsqu'il compose ses sketchs symphoniques, il écrit qu'il est déterminé à les écrire dans un style américain. Et dans la première partie de ses Symphony Sketches, Jubilé, vous allez l'entendre, l'écho des rythmes noirs, la juxtaposition de rythmes afro-caribéens et ces moments métaphoriques des grands espaces américains. On croit entendre le cheval et son cavalier avancer sous le soleil qui se couche. Hollywood saura s'en inspirer.
Thank you.
Jubilé, extrait des Symphony Sketches de George Chadwick. C'était l'Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, sous la direction d'Andrew Constantine. George Chadwick est donc le premier grand compositeur, on dira nationaliste, qui parle de son pays, avant Charles Ives. Et il deviendra le compositeur le plus joué à Boston, le plus joué jusqu'à l'arrivée au XXe siècle de Serge Koussevitzky à la tête du Boston Symphony Orchestra. Après la Première Guerre mondiale, les musiciens allemands ne sont plus trop bien vus en Amérique. Le chef du Boston Symphony Orchestra, Karl Muck, démissionne de ses fonctions après l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit. Et la direction de l'orchestre choisit Serge Koussevitzky. Il est contrebassiste, il s'est fait un nom en tant que virtuose à l'époque à Moscou. Il a quitté la Russie en 1920 d'abord pour Paris et déjà commandait à Paris de nouvelles œuvres pour ses concerts. Autant on parlait à New York d'Arturo Toscanini qui souvent rejouait les mêmes œuvres classiques européennes au public new-yorkais, autant Koussevitzky à Boston va être une force motrice impressionnante au service de la création de la musique classique. Alors il est né le 14 juillet 1874, à Vyshny Volochek, il devient chef de l'orchestre symphonique de Boston en 1924 et y restera 25 ans. À Boston, il en impose par sa présence, avec son élégance, sa cape, son opulence, sa façon de diriger. Ses répétitions sont moins violentes que celles de Toscanini, mais elles restent tempétueuse. Surtout, il est à l'affût de nouveaux compositeurs et aime commander de nouvelles œuvres. L'un des premiers bénéficiaires sera Aaron Copland, que lui avait présenté à Paris Nadia Boulanger. Lors de sa première saison au Boston Symphony Orchestra, Koussevitzky inclut la symphonie pour orgue et orchestre de Copland et dans la seconde, Music for Theatre. Copland lui en sera redevable. Il écrit en 1944 pour Monsieur Koussevitzky, chaque composition nouvelle est une aventure fraîche. Le résultat est aussi imprévisible qu'un accouchement.
Thank you.
L'Andante Sostenuto du concerto pour piano d'Aaron Copland, l'orchestre philharmonique de New York dirigé par le disciple de Serge Koussevitzky, Leonard Bernstein. À Boston, Koussevitzky commande à tour de bras à Samuel Barber, Howard Hanson, Roy Harris, Walter Piston, William Schumann. Il ne dédaigne pas Gershwin et la comédie musicale. Il se déclare captivé par Oklahoma, la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Il commande à Aaron Copland sa troisième symphonie, un concert musique à Hindemith, multiplie les premières américaines d'œuvres à Boston, la 9e symphonie de Gustav Mahler, Oedipus Rex de Stravinsky, Pierre et le Loup de Prokofiev. Il commande enfin Peter Grimes à Benjamin Britten. Dawn, extrait du prologue de Peter Grimes de Benjamin Britten, l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
Autre figure à Boston importante, Leonard Bernstein. Serge Koussevitzky l'avait désigné comme son successeur. Il prévoyait même un plan de 3 ans pour prendre graduellement sa place. Malheureusement, l'Assemblée Générale de l'Orchestre lui préfère Charles Munch. Leonard Bernstein est un enfant de Boston. Il naît à Lawrence, dans la banlieue. Il est le fils d'immigrés juifs arrivés d'Ukraine. Rien ne le prédispose à devenir grand musicien. Son père tenait un magasin. Et pourtant, à l'âge de 10 ans, il découvre sa vocation avec un piano qui atterrit dans la maison familiale. Et il débute des cours de piano qui l'amèneront à la Boston Latin School d'abord, à Harvard University, où il étudie la musique et écrit une première thèse sur l'absorption des éléments raciaux dans la musique américaine. Il en vient ensuite à apprendre la direction d'orchestre au prestigieux Curtis Institute of Music de Philadelphie. Sa vie se déroule ainsi au rythme de la musique et il quittera bientôt cette banlieue bostonienne pour la Grande Pomme, New York, où il devient une figure incontestée. Mais il n'oubliera pas Boston. C'est dans sa banlieue, à Waltham, Brandeis University, exactement, 20 minutes en train, une université vraiment dans la campagne, quelques bâtiments, une bibliothèque où on travaille de façon très studieuse, même le dimanche, une université soutenue par la communauté juive, que Bernstein crée une mini-opérette curieuse et autobiographique. Trouble in Tahiti, l'histoire à deux personnages d'un couple qui va à volo. Voici le moment où la femme se montre très perturbée après avoir vu un film qui parle d'amour et dans laquelle elle pense à son mariage raté. Antonia Butler.
Sing up. chattering. If I don't get going this minute, there won't be any dinner when Sam comes home.
What a movie! Extrait de Trouble in Tahiti, Leonard Bernstein dirigeait son œuvre à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York avec Antonia Butler dans le rôle de la femme mariée qui se pose des questions. Boston, c'est enfin Tanglewood que Koussevitzky fonde en pensant à un petit Salzbourg américain, un lieu pour éduquer. À partir de 1936, son orchestre symphonique de Boston donne des concerts chaque été dans ce lieu situé dans les Berkshires, un lieu campagnard, une montagne au nord de l'État de New York. Serge Koussevitzky y enseigne la direction d'orchestre. D'ailleurs, ses premiers étudiants se nomment justement Leonard Bernstein et Chris Foss. Quand on demandait à Koussevitzky pourquoi appeler ce lieu Tanglewood, qu'il a créé un Salzbourg américain, il répondait, ayons le courage de dire qu'au début, Salzbourg, c'était un lieu idéal. Mais maintenant, c'est le lieu le plus commercial que vous pouvez imaginer. La plupart des gens qui vont à Salzbourg, ce sont des snobs qui viennent pour dire qu'ils ont été à Salzbourg. Les répétitions sont trop rapides, une semaine, peut-être moins. Alors pourquoi pas faire un Tanglewood aux USA? Nous jouons ici quelque chose qui est plus parfait qu'un seul concert à Salzbourg.
Come now a roundel and a fairy song, then for the third part of a minute hence. Some to kill cankers in the musk rose buds. Some war with rear mice for their leathern wings to make my small elves' coats. And some keep back the clamorous owl that nightly hoots and wonders at our quaint spirits. Sing me now asleep, then to your offices and let me rest.
You spot the snakes with double tongue, thorny hedgehogs be not seen, newts and blind worms do no wrong, come not near a fairy queen. Newts and blind worms do no wrong, come not near a fairy queen, come not near a fairy queen, hence away.
Oh,
Le cœur du festival de Tanglewood avec l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa, Kathleen Battle, Frederica von Stade, un extrait du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. On ne peut quitter Boston sans faire un tour par la fameuse Berklee School of Music, pas très loin de Boston Symphony Hall, également sur Massachusetts Avenue. Ils sont passés tellement de grands musiciens, Quincy Jones, Howard Shore, Keith Jarrett. C'est certainement la plus importante école de musique contemporaine aux États-Unis. On y étudie le jazz, la musique moderne américaine, le rock, le hip-hop, le heavy metal. Un bâtiment et une école créés par Lawrence Berk en 1954. Dans le film Whiplash de Damien Chazelle, qui raconte le dur apprentissage de la batterie par un jeune étudiant martyrisé par son prof, on se croirait à la fois à la Juilliard School de New York et à la Berklee School of Music. L'ouverture de Whiplash, le film de Damien Chazelle, musique Justine Horwitz. On reprend la route, demain direction Chicago, son blues, son jazz et sa musique classique pour adoucir les mœurs. Merci à Clara Nouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission, à Alice Escriou pour le site, au mixage d'Ofar Guérid, à la réalisation Céline Parfenoff. Vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série sur l'application Radio France et les plateformes de musique en ligne, la programmation musicale. Vous la retrouvez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.